Bonjour à chacun et à tous. Je vais parler de la croix, du combat qui fait partie de nos vies. Et parler de la croix, parler de la souffrance, surtout quand on est dedans, on arrive à un moment où il n'y a plus de paroles. Et les 7 paroles du Christ en croix, c'est quelque chose de tellement précieux qu'il nous laisse, mais il y en a une qui se dit dans le silence, qui est son cœur transpercé. Ça m'a fait penser à ce que Catherine de Sienne, elle avait des rencontres où elle pouvait parler à Jésus direct. Et une fois, elle lui pose la question, mais pourquoi ton cœur a été transpercé? Tu étais déjà mort. C'était de la violence gratuite. Pourquoi ça? Et Jésus lui a dit, eh bien, mon amour n'est pas limité. Mon amour est infini. Il fallait quelque chose qui dépasse tout, qui aille au-delà de tout, pour montrer que mon amour est infini. Et voilà, ce cœur ouvert, c'est quelque part la conclusion de mon enseignement, mais je ne sais pas si je vais le faire à l'envers maintenant. Mais ça, c'est pour dire, Vincent, avec ces quelques phrases, il nous a déjà nourris profondément. Alors, hier, c'était la grande fête de la Transfiguration, où nous avons suivi les disciples au Mont Tabor, où ils ont expérimenté que Jésus est Dieu. Il s'est révélé dans sa gloire. Et à tel point qu'ils ont été saisis et ils voulaient rester là, faisant 3 tentes, on va rester là. C'est magnifique. Et nous aussi, nous avons besoin de ces moments de Tabor. Nous avons besoin, et heureusement, le Seigneur nous fait vivre au moins de temps en temps des moments de ressourcement profond, de rencontre avec lui, de rencontre avec son amour, de rencontre avec le ciel. En même temps, Jésus va parler avec Moïse et Élie. C'est dit de son exode. Son exode, c'est rien d'autre que la passion. Donc déjà, ça prépare ce moment de gloire. Ça prépare les disciples, ça voudrait préparer les disciples à ce qu'ils puissent vivre la passion au moment venu. Nous savons très bien, ils le vivent très pauvrement, la passion. Ils n'arrivent pas à assumer. Et quelque part, ça nous console parce que nous non plus, nous arrivons très mal à vivre la passion, la souffrance. Nous voulons l'échapper et c'est bien naturel parce que nous sentons bien que nous sommes faits pour la gloire, nous sommes faits pour le ciel. Seulement que tant que nous sommes en chemin, c'est toute notre vie, c'est un chemin comme pour le peuple Israël de sortie d'Égypte, de traverser du désert pour entrer dans la terre promise. Donc, les disciples aussi, ils doivent descendre de la montagne. Jésus leur dit, n'en parlez à personne. Et c'est que beaucoup plus tard qu'ils comprendront tout ce qu'ils ont vécu. Que au moment de la résurrection. Ils ont compris Jésus est Dieu, mais parce que plus tard, ils auront besoin de se souvenir. Et au fur et à mesure, c'est la même chose pour tout le monde. Saint Paul qui avait fait toutes les études du monde, qui était un peu le premier de classe, et il fallait qu'il tombe de son cheval pour que ses yeux s'ouvrent. Et tout d'un coup, lui, le grand orateur, il va venir parler, il va dire, j'étais tout tremblant, il perd toutes ses sécurités apparentes. Mais ça va aller jusque là qu'il va faire l'expérience de sa faiblesse profonde. Même à Saint Paul, avec tous les talents qu'il a, il va faire l'expérience il y a un endroit où je suis pauvre, un endroit où je peux pas par mes forces. Et il va d'abord demander au Seigneur, enlève-moi les chars de ma chair, parce que comme ça, je serai mieux, je serai un meilleur prédicateur, je serai un meilleur évangélisateur. Si tu m'enlèves cette écharde, on ne sait pas ce que c'était. On peut mettre toutes sortes de faiblesses ou de péchés ou de tentations. Ben, le Seigneur lui dit, ma grâce te suffit. Et c'est à partir de ce moment-là que saint Paul va commencer à non plus se glorifier de tous ses titres, de toutes ses formations, de tout ce qu'il sait faire, mais de ses faiblesses. Parce que dans sa faiblesse, il expérimente la grâce de Dieu, le don de Dieu, l'amour de Dieu. Et ainsi, il va écrire dans la lettre aux Corinthiens, dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 1, au verset 23, « Nous prêchons un Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. » Il sait très bien que pour les Juifs, le Messie, on a entendu hier le titre de Messie, c'est loin, c'est celui qui viendra sauver Israël. Donc, c'était pas imaginable un Messie pauvre. Et encore moins un Messie qui meurt sur la croix. C'était inimaginable pour le peuple juif. Et donc, il dit scandale pour les Juifs. Un Christ crucifié, scandale pour les Juifs. Et folie pour les païens, folie pour les Grecs. Parce que les Grecs, eux, c'est la recherche de la sagesse, la philosophie. Et donc, il faut quelque chose de très intelligent. Et il va dire, ben, le Christ crucifié, c'est sagesse, c'est la sagesse suprême. Mais pour le monde ambiant, incompréhensible. Et ça n'a pas changé. Aujourd'hui, c'est la même chose. Pour le monde ambiant, c'est incompréhensible. Et il y a là, dans le Christ crucifié, pourtant, la parole dont le monde a tellement besoin, dont le monde profondément a soif, dont nous tous, nous avons soif. Et qui serait pourtant la parole, le Christ crucifié, la parole d'espérance. Je dirais pour le monde d'aujourd'hui, on a besoin de rien, on a urgemment besoin d'espérance. Nous vivons dans un monde où il y a crise après crise. Ça a commencé, il y avait la crise de Covid, après il y avait, il y a une guerre après l'autre qui se déclenche. Il y a tout ce qui touche maintenant à la question de l'intelligence artificielle, où le pape dit, il faut désarmer l'intelligence artificielle pour qu'elle serve l'homme et qu'elle ne devienne pas celle qui domine l'homme. Après, il y a, on a vu la nature, l'environnement avec tous les feux cet été. Il y a crise après crise. Et là-dedans, au cœur de cela, le Seigneur se révèle comme celui qui nous permet de lever les regards dans l'espérance. Il nous enlève pas la souffrance. Il nous promet pas de nous protéger de la souffrance, de nous épargner. Il y a une femme qui a écrit des poèmes, une femme juive qui est pas très connue, pourtant elle a eu des prix littéraires. Elle s'appelle Hilde Domin, une femme allemande, juive. Elle est morte il y a une vingtaine d'années. Elle était elle-même, elle a été persécutée, elle a survécu le camp nazi. Elle a ensuite émigré aux États-Unis et elle a commencé à écrire. Et vers la fin de sa vie, elle est revenue en Allemagne. Donc de là où elle était maltraitée, elle a vécu l'horreur. elle a eu une résilience merveilleuse de revenir là et finalement de finir sa vie dans une grande paix. Et alors, elle a un poème, je le dis pas en allemand, en allemand il est rimé, mais le contenu est très vrai. Donc elle est juive. Elle dit, nous aimerions un printemps éternel, nous aimerions un pré de fleurs qui demeure pour toujours. Or, la foi, ça veut pas dire que nous serons épargnés du déluge. Nous devrons traverser le déluge comme les autres. Nous ne sommes pas épargnés de la fournaise ardente. Nous ne sommes pas épargnés de la fosse aux lions. C'est ce que nous voudrions. Eh ben, en fait, non. Mais je prie le Seigneur pour que, une fois sorti de là, il me rende un peu plus à moi-même. Elle-même, elle pouvait dire ça parce qu'elle a vécu jusque dans sa chair. Elle est sortie d'une épreuve inimaginable qui certainement lui a demandé des années et des années de travail, de réconciliation, d'apaisement, de reconstruction, mais et peut-être aussi de lutte avec Dieu. Mais elle a compris que une fois traversé le déluge, une fois passé dans la fournaise ardente, une fois passé dans la fosse aux lions, donc confronté à la mort, confronté à la souffrance extrême, mais sorti de là, je suis devenue un peu plus moi-même. Je trouvais ça magnifique. Donc c'est ça l'espérance. Que le feu, que les lions, que le déluge n'auront pas le dernier mot. Vous avez peut-être vu cette photo qui a circulé dans les médias de la Croix dans le sud de la France. Il y avait cet incendie en Gironde où il y a une croix qui est restée debout alors que tout autour est brûlé. Même la croix a été touchée. Et en fait, certains ont dit le miracle. Et en fait, le curé du coin, il a dit non, c'est pas le miracle. Parce que ça voudrait dire que Dieu a permis que tout brûle et que lui-même, son nom soit sauvé. Non. Mais ça veut dire autre chose. C'est que Dieu, au cœur de cette catastrophe, il dit que le feu n'aura pas le dernier mot. Donc voilà, la croix, c'est le moyen, c'est le passage qui nous dit même la mort n'aura pas le dernier mot. Je parlerai un petit peu de nos combats. Jésus nous a donc annoncé, ça va pas être facile. Il a été vrai avec nous. Il dit, dans le monde, vous aurez à souffrir. Et la persécution, la faim, la soif, voilà, nous trouvons tout dans l'évangile. Il dit aussi, le serviteur sera pas plus grand que le maître. Et il nous a aussi montré que le combat fera partie de notre vie. Lui-même, il a été tenté. Mais là aussi, le combat, c'est en finale un moyen de transfiguration, de transformation. C'est pas l'échec qui aura le dernier mot. Allons voir un peu concrètement comment Jésus a vécu les tentations. Il est baptisé, donc il vient au Jourdain, où il y a Jean-Baptiste qui baptise, et d'abord, il veut pas baptiser Jésus, puisque c'est un baptême de conversion, et Jésus dit non, laisse faire. Et à ce moment-là, il y a, comme à la transfiguration, le ciel qui s'ouvre, et tous entendent la voix de Dieu, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Celui-ci est mon fils bien-aimé. » Encore un nom de Jésus, « Mon fils bien-aimé. » Et ce « écoutez-le », c'était clair pour ceux qui étaient là, parce que ce écoute Israël, ça faisait écho à cela. Donc, Dieu le Père a révélé que Jésus est Dieu. Tout de suite après, Jésus part au désert. Il va jeûner 40 jours et ensuite, c'est ce récit des tentations. Le diable, il va venir et il va le tenter. Il y a trois fois, de trois manières différentes. Mais je n'entre même pas dans qu'est-ce que le diable va dire, quelle sorte de tentation. Vous les connaissez, il dit le pain change ce pain, dit à ses pierres de devenir du pain parce que Jésus a faim, etc. Donc, ou jette-toi de ce pinacle et c'est dit que les anges vont te sauver. Adore-moi, comme ça je te donne tout le royaume de la terre, tout le pouvoir. Mais je m'arrêterai même pas sur ça. Je m'arrête sur ce que le diable dit dans l'introduction. Parce que ça rejoint toutes nos tentations. Il va dire à Jésus, si tu es le Fils de Dieu. C'est-à-dire, si c'est vrai, donc il met en doute, et quelque part, le Père, il vient de révéler, c'est mon Fils bien-aimé. Et quand le Père dit, Jésus est mon Fils bien-aimé, il le dit à nous tous. Tu es dans le Fils, nous sommes tous fils et filles. Tu es mon Fils, ma fille bien-aimée. Et finalement, toute tentation, ça revient à ça, de ne plus ou de douter, de ne plus croire, de douter que je suis le fils, la fille bien-aimée de Dieu. Vous pouvez retracer toutes vos tentations. En final, en fin fond, ça commence par ça. C'est que j'arrive plus à croire que je suis aimée. Et les raisons peuvent être multiples. Ça peut être mes fragilités, mes faiblesses, mes hontes. Mais quelque part, c'est comme ça que le diable, toujours, il commence comme ça à mettre ce doute-là. Que finalement, tu n'es pas digne, tu n'es pas aimé, d'une manière ou d'une autre. Alors que l'amour du Père, pour moi, est inconditionnel. J'ai pas besoin de mériter, je peux pas le perdre. C'est déjà Adam et Ève, c'est comme ça que ça commence. Dieu leur dit, vous pouvez manger de tous les arbres, mais pas de celui-là. Adam et Ève, ils vont se laisser tenter par le diable qui dit, non mais finalement, vous pouvez pas manger des arbres. Donc ils mettent le doute, peut-être Dieu, c'est un Dieu jaloux, il me donne pas tout. Et donc, il est séduit et finalement, ils vont faire ce que Dieu leur a dit de ne pas faire. Et la première réaction de Adam et Ève, ils se cachent. Il se cache alors que l'amour de Dieu reste exactement le même. Même pendant qu'ils pêchent, même pendant qu'ils désobéissent, l'amour de Dieu reste intact pour eux. Mais beaucoup parmi vous, vous êtes papa, maman, vous voyez très bien un enfant qui casse le vase de la grand-mère, même si on lui a dit, écoute, là-haut, sur ce placard, tu monteras pas, parce que si tu joues avec ce vase-là, il va tomber et tu vas te faire mal. Comme souvent, l'enfant, il s'intéresse justement à ce qu'il faudrait pas faire. Il casse le vase, il monte là-haut, il se casse la figure avec. Un enfant qui a résolument confiance dans son père, il va être capable de se jeter dans ses bras, de pleurer en disant « Papa, j'ai fait ce que je ne devais pas faire. » Mais très vite, nous n'avons plus cette confiance de l'enfant et nous nous cachons. La petite Thérèse, tout son enseignement est sur ça finalement. Elle est devenue docteur de l'Église à cause de ça. C'est la confiance dans le Père. Et Elle dit, mais moi, quand j'ai fait une bêtise, je me jette dans tes bras. cette confiance-là. Donc, la tentation, quand elle se présente, revenons à la confiance dans l'amour de Dieu, qui reste intact à tout moment. Nous ne pouvons pas tomber plus bas que dans les bras de Dieu. Donc, son amour inconditionnel, toujours là pour nous. Et le titre de ces quelques jours, c'est « Ton nom est forteresse ». C'est comme si c'était un lieu. Et il y a aussi le psaume 90 que nous chantons toujours au compli, qui demeure à l'abri du Très-Haut et loge à l'ombre du Puissant. Dit au Seigneur, mon rempart, mon refuge, mon Dieu en qui je me fie. C'est pas par hasard que l'Église prend ce psaume toujours le soir, avant de se coucher. Parce que la nuit, c'est quelque part, c'est comme faire l'expérience de l'abandon. Je me confie en Dieu, je me remets entre les bras de mon Père. Père, c'est aussi un nom de Dieu. C'est le dernier nom que Jésus crie sur la croix. Père, pardonne-leur. Père, en hébreu, Abba. C'est émouvant. Moi, j'ai été en Israël et en revenant dans l'avion, il y avait aussi une famille juive, donc, qui parle hébreu. Ils parlent hébreu moderne. Mais bon, c'est à peu près la même chose que l'hébreu biblique. Et il y avait les enfants qui jouaient dans les couloirs. Et tout d'un coup, il y en a un qui crie « Abba, Abba !» Et il va voir son papa. Et je me suis dit « Mais c'est vraiment ça, c'est le mot « papa ». Donc ça aussi, c'est un nom de Dieu. Au cœur de la tentation, et je m'arrête là pour la tentation, se jeter dans les bras de Dieu, faire mémoire, je suis aimé, je suis fils et fille. C'est ça mon identité et personne ni rien peut enlever ça. Même pas mes propres péchés, mes propres échecs, rien. Cette dignité-là, elle est inaltérable. Et alors, chaque fois que je traverse la tentation, il y a quelque chose en moi qui se purifie aussi. Il y a quelque chose en moi qui se construit de cette identité. C'est pour ça que je suis bien plus fils et fille au terme de ma vie, alors que j'aurais probablement expérimenté jour après jour de me relever, de me relaisser aimer, de laisser l'amour de Dieu faire son œuvre de transfiguration en moi. Donc, c'est ça, tout le chemin de la sainteté, c'est ça. C'est pas de ne pas tomber, mais c'est de me laisser relever. C'est me laisser transfigurer par l'amour de Dieu. Donc, ça, concernant les combats, les tentations. Maintenant, je voudrais dire un mot sur la souffrance. Je tente, parce que comme a dit Vincent ce matin, la souffrance, on y va à petits pas et même dans le silence profondément. Notre monde a pourtant besoin de cette parole au cœur de la souffrance qu'elle vit. C'est la souffrance de l'enfantement aussi. Quand nous voyons au début la Genèse, quand Dieu crée le monde, il est dit d'abord que la terre était déserte, vide et déserte. Elle était, il y a un autre mot, chaotique. En tout cas, il n'y avait pas de vie. Et pas d'ordre. Et ensuite, Dieu crée le ciel et la terre, Dieu crée la lumière. Parfois, on interprète cette parole, le tout début de la Genèse, la création, comme quoi, au début, il y avait le tohu va-bohu, donc le chaos total, et Dieu vient ordonner. Dieu vient mettre bien comme il faut. Mais non, Dieu, à ce moment-là, pourquoi il n'a pas créé d'emblée tout bien ordonné? Jésus, il s'incarne, il prend chair dans la Vierge Marie comme un tout petit bébé. Et dans des conditions, il naît à Bethléem, dans une grotte. Tout de suite, la persécution commence. Hérode qui veut le tuer, tout de suite. Est-ce que ça, c'était un monde idéal? Est-ce que Dieu aurait pu arriver dans ce monde, voilà, au moins adulte, mais dans sa fragilité de l'enfant, dans cette situation chaotique? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Nous aussi, nous sommes aujourd'hui dans un monde, et peut-être dans une situation personnelle, dans une situation familiale, qui n'est pas tout beau, tout arrangé, mais c'est peut-être le chaos, c'est peut-être, voilà, c'est pas l'idéal. Le réel, mais Dieu n'a pas voulu venir dans un monde idéal. Il est venu là-dedans. Et l'esprit qui couvait sur les eaux, c'est encore aujourd'hui et qu'il couve sur ce monde avec ce qu'il est, avec ses combats, avec ses incohérences, avec ce chaos, avec ses crises qui n'en finissent plus, qui vont dans tous les sens. Mais l'esprit couve sur ce monde tel qu'il est aujourd'hui. Il couve sur notre famille telle qu'elle est aujourd'hui. Il couvre sur notre vie personnelle telle que c'est aujourd'hui, avec sa part de chaos, de souffrance, d'incohérence, de scandale, d'échec, tout ça. Il y a quelques années, j'étais ici pour un festival de jeunes, jeunes 18-30, et il y a un jeune de 22 ans, je me souviens encore, musulman qui, à 16 ans, à travers les scouts, donc lui, il faisait partie des scouts musulmans, je savais pas que ça existait, et il y a eu une rencontre avec des scouts catholiques, et notamment aussi, il y avait des religieux dans le sud de la France, et un jeune qui rentrait chez eux, et qui après a invité, ils sont liés d'amitié, et au début, il raconte, lui, musulman, et d'une famille, mais convaincue, et d'une famille même assez fondamentaliste. Il a dit que il avait même un oncle qui s'était engagé en Syrie, dans l'IS. Donc vraiment. Et il a dit qu'il était convaincu d'être, enfin, que l'islam était la bonne religion. Et en rencontrant ce, en fait, c'était un séminariste qui était aussi chef scout. Donc tous les deux chefs scouts, en rencontrant l'autre, il s'est dit, ben je vais le persuader que la vraie religion c'est l'islam. Et c'est comme ça qu'ils ont gardé contact. Et en fait, à travers différentes rencontres, c'est lui qui a fait une rencontre avec le Christ. Le Christ dans l'Eucharistie, c'était tellement impensable. Et alors, il dit, mais ça c'est Dieu, mais je fais quoi maintenant? Il avait 16 ans, hein. C'est impensable de dire ça à ma famille. C'est impensable. Il savait même pas qu'il était allé dans un lieu chrétien. Il pensait qu'il a dit, je suis toujours parti chez moi dans la tenue scout. Donc, c'est un rassemblement scout. Alors que c'était son ami séminariste qui l'a invité à passer Noël avec lui dans cette communauté. Et il a dit, la première fois de ma vie, j'ai vu que les chrétiens, ils prient plus que six fois par jour. Parce que, eh bien, tous les offices de Noël, les trois messes, alors il a dit, et puis ils se prosternent. Enfin. Et pour finir, justement, il a fait cette rencontre avec le Christ dans l'Eucharistie. Alors, bouleversé. Et il garde contact et il dit, non mais, je veux être baptisé. Alors là, pour être baptisé, il faut que tu cherches dans ta région, et visiblement il était dans la région parisienne, il faut que tu cherches un prêtre qui est prêt à te préparer sur place. Donc, je fais bref. En tout cas, il a trouvé un prêtre. Mais ce prêtre, au bout de très peu de temps, quand il a réalisé que il est mineur et que il vient d'une famille musulmane assez fondamentaliste, visiblement il a pris peur. En tout cas, il a dit non, je peux pas te préparer au baptême. Et ce jeune, il dit, alors j'ai appelé mon copain là, le séminariste dans le sud de la France. J'ai dit voilà, vous avez tous témoigné que une fois que vous aurez rencontré le Christ, toute votre vie est devenue facile. Et moi, depuis que j'ai rencontré le Christ, tout devient compliqué, tout devient difficile. Et même le prêtre, il a pris peur. Je fais quoi maintenant? Il a dit, cet ami séminariste, il a eu un réflexe super. Bien sûr, il savait pas quoi dire. Il savait très bien que ce jeune, s'il demandait le baptême, s'il était baptisé, était quelque part en danger de mort. Mais il voulait pas renoncer quand même. Il a dit, demande à Jésus. Alors, ce jeune musulman, ex-musulman, dit, oh, j'ai dit, d'accord. Jésus, qu'est-ce que je dois faire? Bon, pas de réponse. Et il dit, voilà, si c'est comme ça, moi, j'abandonne. Il venait justement voir ce prêtre qui avait commencé à le préparer, toujours en tenue scout, en disant à sa famille, on a une rencontre scout. Et il a dit, à chaque fois, je le rencontrais au presbytère, de manière un peu cachée. Puis ensuite, je passais dans l'église et je voyais le tabernacle. Jésus, Jésus. Et je suis partie. Je dis, mais quelle chance ils ont, les cathos. Ils voient Dieu, ils ont Dieu avec eux. Et là, il sait plus quoi faire. Il dit, mais ils veulent pas me baptiser, donc et là il dit, une fois, donc il dormait dans sa chambre avec son frère, son petit frère, lit superposé, et il dit, une fois la nuit, je suis réveillée par sa secoue, et puis j'ai l'impression que c'est mon frère qui se réveille et qui bouge et qui veut peut-être aller aux toilettes, et puis non, en fait son frère dormait. Et là il a eu une apparition. Il a dit, c'est Jésus miséricordieux qu'il a vu après sur des images. C'est comme Jésus miséricordieux. Il y a des rayons qui sortaient de son cœur ouvert. Et il a dit, il n'y avait pas de doute, ça durait peut-être quelques secondes. Il n'y avait pas de doute, c'est Jésus. Et donc, il a dit, je me fais baptiser, coûte que coûte. Et effectivement, il a demandé à être baptisé. En plus, il a vraiment tenu à être baptisé catholique, alors qu'il a dit, au moins chez les protestants, ça va très vite. C'était une tentation pour moi, mais je voulais être... Comme il a rencontré Jésus dans l'Eucharistie, il voulait être baptisé catholique, donc il a fait toute la préparation, il a été baptisé. Mais jusqu'au bout, parce qu'il a pu quitter la maison familiale seulement après le bac pour faire ses études, donc là, c'était un peu plus facile. Et donc, il a dit, je me suis installé pas très loin, j'ai trouvé un logement pas très loin d'une église, parce que là, j'habitais juste à côté de la maison du Seigneur. Moi, quand j'ai vu ce jeune, 22 ans, il nous a fait un enseignement sur la foi. C'était bouleversant. Donc, mais au point de départ, il a dit aussi quelque chose, il nous a fait un enseignement, ne dites pas que quand vous rencontrez Jésus, tout devient facile. C'est pas que facile. Et nous, on est parfois tentés, je sais pas vous, mais moi, parfois, je suis tentée de donner un évangile light, un peu, voilà, l'évangile, le bien-être, ça passerait plus. Même Saint Paul, c'était quand même pas rien d'annoncer exactement ce que le monde voulait pas entendre. Les Grecs, ils voulaient pas entendre de cette sagesse-là. Les Juifs, ils voulaient pas entendre de ce Messie pauvre qui ressemble à un ver, plus à un homme. Et il faut penser que l'Église même a mis plusieurs siècles avant de représenter le Christ sur la croix. Vous allez voir, les premières représentations du Christ, c'est le Christ glorieux. Et dans l'Église d'Orient, on représente encore beaucoup plus le Christ dans sa gloire. C'est un seul mystère, la croix et la résurrection. Les deux sont liés. En fait, comme à la transfiguration transparaît la croix, l'épreuve, la tentation, et qui nous doit nous amener à travers la tentation, l'épreuve, à la gloire, de la même manière, dans la croix, il y a déjà quelque chose de la gloire qui est contenu, qui resplendit déjà. Un autre petit témoignage, c'est le témoignage d'un évêque qui est maintenant évêque en Norvège, Erik Vardén. C'est lui qui a prêché la retraite de carême au Vatican cette année. Alors, Erik Vardén, à la base, il était moine, mais encore plus jeune. Il vient d'une famille, il a été baptisé protestante, mais une famille non pratiquante. Puis, il a dit, oui, ils avaient des valeurs chrétiennes. Il avait grandi en Norvège, mais complètement dans un monde sécularisé, dans une vie complètement sécularisée. Et il dit que quand il était ado, son père était vétérinaire. Et donc, dans la campagne autour, il allait beaucoup dans les fermes pour s'occuper, quand il y avait des vaches qui, s'occuper des bêtes dans les fermes. Et un jour, lui, il dit, j'étais moi-même ado, plutôt dans une sorte de tristesse qui confinait le désespoir. On connaît bien cette. Moi-même, je suis dans la pastorale universitaire des jeunes. Donc, c'est pas des ados, c'est des jeunes plus grands à partir de 18 ans. Mais je vois combien de jeunes portent vraiment une tristesse profonde aujourd'hui. Qui confine parfois au désespoir. Et lui, il dit, ado, j'étais à la limite dépressif. Et je me posais la question, quel sens à la vie? Mais il aimait beaucoup la musique. Et aussi la musique classique. Et il dit, un jour, je me souviens encore, papa rentre. Il travaillait dans une ferme et il revient et il raconte à table, un peu comme ça au milieu, qu'il a vu cet agriculteur qui travaillait dans les champs torse nu, et visiblement c'était un agriculteur qui avait aussi été du temps du nazisme dans les camps, et il avait été maltraité, et il a dit, j'ai vu sur son dos toutes les cicatrices, oui, merci, toutes les cicatrices. Et Erik Vardén, qui était donc un ado à l'époque, qui dit, ça m'est rentré droit dans le cœur, et ça relançait cette question qui était déjà lancinante, mais pourquoi le mal, d'où vient le mal, cette blessure? Et ça m'a enfoncé, mais cet homme, il a subi un mal injuste, il a été maltraité injustement, gratuitement, la méchanceté des hommes. Et, il a dit, ça m'a enfoncé et ça a maintenu en moi cette question, mais pourquoi le mal? Et il a dit, ça c'est pour moi éclairci. Quelques années plus tard, avec l'écoute de la deuxième symphonie de Mahler. Alors, moi, je suis pas musicienne. Je suis allée voir. C'est la symphonie sur la résurrection. Et il est dit dans cette symphonie, à un moment, non, je n'ai pas souffert en vain. C'est au moment où la résurrection commence. Et donc, il y a cette voix qui dit ça, et pour lui, ça lui est rentré droit dans le cœur. Non, je n'ai pas souffert en vain. Et c'était le moment où il a découvert le Christ mort comme la clé de comprendre. Et il est entré dans l'Église catholique à 16 ans, et après, bon, il a fait tout le chemin, devenu moine, et il y a quelques années, le pape François a nommé évêque en Norvège, et voilà, donc là, il a été invité à prêcher la retraite de Carême au Vatican. Voir que, et que lui, il a découvert au cœur du non-sens, au cœur de la souffrance, au cœur d'une forme de dépression, que le Christ crucifié, que le Père va ressusciter, illuminer tout, y compris à donner un sens. Parce que, justement, il souffrait de ce fait, mais quel sens à la vie ? Il y a Viktor Frankl, c'est mon psychiatre préféré, c'est un Autrichien aussi. Il est mort dans les années 90. Lui, il a fondé la logothérapie. Logos, en grec, ça veut dire parole, mais ça a beaucoup de significations, mais entre autres aussi, ça signifie le sens. Et parce qu'il dit que quand on a un sens à ce qu'on fait, on peut traverser tous les pourquoi. Celui qui a un but, qui a un sens, il peut tout vivre. Et lui aussi, il a souffert atrocement dans sa propre vie. Il était déjà au point de départ. Son premier travail était pour les personnes tentées par le suicide. Et après, lui-même, étant juif, il a survécu 4 camps de concentration, une souffrance pas possible. Et il a repris vie après, et il a raconté ce qui lui a permis de tenir, c'était à chaque fois de penser à quelqu'un qui allait peut-être l'attendre. Sa femme, peut-être, elle allait l'attendre après. Il a développé sa logothérapie. Il s'imaginait en plein camp de concentration que il allait enseigner devant des foules ce qu'il avait trouvé. Et effectivement, plus tard, ça s'est avéré. Mais il est passé d'abord par des moments. Il a perdu sa femme. C'est au moment de la libération. Il raconte à un moment, il retourne à Vienne, d'où il venait, et à un endroit, il a appris que sa femme n'a pas survécu. Il a dit, là, j'étais moi-même tentée par le suicide. Et je me suis souvenu, si on a un sens, alors quel peut être le sens maintenant? Celle que j'ai aimée n'a pas survécu. Et il s'est dit, non. La vie jusqu'au dernier souffle, il a un sens. Et au fur et à mesure, il a repris vie, enfin, grâce à sa propre thérapie d'une certaine manière. Il s'est marié ensuite avec une deuxième femme qui était catholique, elle. Et il a encore développé la logothérapie plus loin. Et lui, c'est quelqu'un qui a dit que celui qui a la chance d'avoir la foi, donc lui, il est resté juif jusqu'au bout, sa femme catholique, mais il avait un très grand estime de la foi chrétienne aussi. Et il a dit, celui qui a la chance d'avoir la foi, de pouvoir s'appuyer sur plus grand que lui, il a une chance inouïe. Parce que il y a différentes manières de trouver le sens. Il a dit, le sens, c'est pas nous qui donnons le sens. Le sens, il faut le trouver, le révéler. Parce qu'il est là du premier instant de la vie jusqu'au dernier instant. Alors, ça peut être à travers quelque chose qu'on crée, quelque chose que un travail manuel, quelque chose qu'on crée, les arts. Ça peut être à travers quelque chose qu'on vit, une expérience. L'expérience la plus grande, c'est l'expérience de l'amour. Mais ça peut être aussi l'expérience, par exemple, d'un voyage. Donc, il encourageait les personnes qu'il accompagnait à faire des expériences, à vivre quelque chose. Bien sûr, l'amour d'une personne, c'est extrêmement guérissant. Ah, celui qui a la chance d'être. Et puis, il disait, seul l'homme, parce que il est un être tripartite, donc il est fait de corps, âme et esprit, seul l'homme, il peut même vivre une souffrance en faisant un acte héroïque. Et l'homme, indépendamment de sa foi, mais il peut, s'il s'appuie sur plus grand que lui, et ceux qui a la chance d'avoir la foi et qui peut dire « je m'appuie sur Dieu, je m'appuie sur le nom de Dieu, je m'appuie sur le Père, je m'appuie sur Jésus », il peut même de sa souffrance faire quelque chose d'héroïque, souffrir héroïquement, c'est ça ce qu'il a dit. Et que ça c'est inouï, il a dit c'est la grandeur de l'homme. Et l'Église n'arrête pas de nous dire, mais notre vocation, la grandeur de notre vocation, la grandeur de l'homme alors que nous sommes des êtres si fragiles. Mais notre vocation, c'est avoir part à travers le Fils, avoir part en finale à la gloire, à cette relation d'amour dans la Trinité. Alors, la souffrance, elle n'est pas à banaliser. C'est vite fait de parler. La souffrance que nous pouvons soulager, notre première appel, c'est de soulager la souffrance. Ou la souffrance qui peut être évitée, de l'éviter, de tout faire. Nous n'allons certainement pas chercher la souffrance pour la souffrance. Même, on voit bien au cours des siècles, les chrétiens, comment ils ont été inventifs pour soulager la souffrance de chaque époque. Nous pouvons pas dire, comme dans certaines autres religions orientales, c'est le sort. Non, notre premier appel, c'est une souffrance qui peut être évitée, qui peut être soulagée, de nous engager radicalement pour l'éviter ou pour la soulager. Ça, c'est la première chose. Après, il y a des souffrances, des épreuves que nous ne pouvons pas empêcher. Il y a des épreuves, il peut y avoir des catastrophes naturelles. Oui, bien sûr, on peut dire, bon, mais c'est parce que nous n'avons pas protégé l'environnement. Mais même les épreuves, il peut y avoir la faute de quelqu'un ou d'un collectif, mais c'est pas en cherchant les coupables que ça va nous donner un sens. Bien sûr, quand la souffrance est la conséquence d'une faute, d'un péché, d'un crime, se rajoute à la souffrance ce besoin ou cette nécessité de pardon Et nous savons très bien que le pardon, humainement, nous est impossible. Le pardon nous est possible que en Jésus. Le pardon, c'est divin. C'est Jésus sur la croix qui crie « Père, pardonne-leur ». Et parfois, il y a vraiment des souffrances qui sont la conséquence de péchés graves et se rajoutent à la souffrance ce cri « Père, pardonne-leur ». Donc, ce besoin de pardonner. Mais ensuite, il y a des souffrances, des maladies, des épreuves. Comment les vivre? Des blessures profondes qui nous traversent ou qui traversent nos proches. Nous connaissons tous. Et quand c'est des proches, c'est parfois encore plus dur à vivre que quand ça nous concerne nous-mêmes. Je vais faire un saut et je vais nous inviter un instant de regarder le Christ sur la croix et même les plaies du Christ. Après la résurrection, Jésus ressuscité, il apparaît aux disciples avec ses plaies. C'est très important. Il apparaît avec ses plaies. Transfiguré, mais ses plaies. C'est même ses plaies qui permettent aux disciples de le reconnaître. Sa voix et ses plaies. Parce qu'il y a quelque chose qui est changé, même de son aspect physique, après la résurrection. Et vous connaissez ce moment où il apparaît aux disciples qui sont encore tout tremblants parce qu'ils ont vécu la croix, ils sont encore sur leurs échecs, ils ont tous, à part Saint Jean, ils ont tous abandonné Jésus. Il y en a qui l'ont lamentablement trahi, mais en tout cas, ils ont tous fui, ils ont voulu sauver leur peau. Et après, bon, il y en a qui disent il est ressuscité, mais quand même, ils sont enfermés de peur. Parce qu'ils ont peur pour eux-mêmes. S'ils ont tué Jésus, ils vont nous tuer nous aussi. C'est ça, leur peur. Il y a un seul qui n'est pas là, c'est Thomas. Et en fait, il faut penser que Thomas était le seul courageux qui s'est pas enfermé. Thomas était un héros. Dans ce climat où tout le monde se cachait, s'enfermait, et il voulait, parce que il veut, c'est tout logique, je veux pas mourir, je sauvais ma peau, je me cache. Thomas était dehors. Thomas était héroïque. Il avait pas peur, le seul. Mais il est pas là quand Jésus apparaît. Il revient. Les autres disciples disent, on a vu Jésus. Et Jésus et Thomas dit, si je vois pas ses plaies, je ne croirai pas. Et si je mets pas la main dans son côté, je ne croirai pas. Jésus va apparaître exprès pour Thomas, une nouvelle fois. Et il va lui dire, touche mes plaies, mets ta main dans mes côtés. Voilà ce que Jésus nous invite à vivre. Parce que ce monde, avec les plaies, il fait deux choses. Avec les blessures, il fait deux choses. Soit il s'identifie complètement à la blessure. Je suis blessé, donc il entre dans la révolte. Et c'est presque comme une identité. Je suis blessé, je suis dans la souffrance, donc où on m'a fait la guerre, je peux faire la guerre aux suivantes. Ça justifie toutes les révoltes, toutes les violences. Ou alors, on évacue la souffrance. On évacue la fragilité. On évacue l'homme qui souffre parce que ça nous gêne. Parce que ça, c'est pas digne de vivre. Donc, on évacue. Soit l'identification avec la blessure, soit l'évacuation de la souffrance, de la fragilité. L'avortement, l'euthanasie, on voit bien. Même les lois vont dans son sens. Jésus nous invite à autre chose. Jésus nous invite d'aller rencontrer ses blessures, toucher ses blessures, mettre nos blessures dans les siens. Et il y a même une prière très ancienne qui dit « Dans tes blessures, cache-moi. Cache-moi dans tes blessures. » Parce que les blessures de Jésus nous disent « La blessure n'aura pas le dernier mot. » C'est la blessure transfigurée qui rappelle que le Père n'abandonne jamais personne et que la souffrance n'aura pas le dernier mot. Le dernier mot sera à l'amour du Père, à la vie qu'il nous donne pour l'éternité. Et alors sera visible pour toujours cet endroit où j'aurais aimé le plus. Et peut-être c'est ma blessure. Alors je termine avec cette prière que Sœur Marie-Lies va nous jouer. Je la lis une fois et ensuite elle va nous la chanter. Âme du Christ, sanctifie-moi. Corps du Christ, sauve-moi. Sang du Christ, enivre-moi. Eau du côté du Christ, lave-moi. Passion du Christ, fortifie-moi. Ô bon Jésus, exauce-moi. Dans tes blessures, cache-moi. Ne permets pas que je sois séparé de toi. De l'ennemi perfide, défends-moi. À l'heure de ma mort, appelle-moi. Ordonne-moi de venir à toi pour qu'avec les saints, je te loue, toi, dans les siècles des siècles. Amen.